Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
20h01 pile poil, vous êtes sur RMC dans l'after à 20h45. Le Multileague 2 à venir sur RMC. On suivra ça avec nos correspondants, bien entendu. On est avec Roland Courbis ce soir. Salut Roland.
Salut les amis.
Ça va Roland ?
Salut à tous. Ben ça va, écoute.
Et
on attend avec impatience de voir la surprise de minuit moins 5.
Oui, puis on rappelle,
il paraît qu'il y en a un qui va signer à minuit moins 5, on ne sait pas ni qui ni où.
Puisqu'on est le dernier jour du Mercato, et notre monsieur Mercato est avec nous également. Salut Fabrice Hawkins. Ah, attention, le micro n'est pas allumé, Fabrice. Est-ce que c'est bon ?
Si, pourtant
c'est
il est allumé.
Bon,
c'est bon,
ou pas ? Ouais, là, c'est bon.
Salut Fabrice.
Salut coach.
Il est là, elle est dure la journée. Hein.
Oui, c'est une journée traditionnelle, la dernière, elle est toujours très chargée, on le sait.
Merci d'être avec nous Fabrice. Je le disais, hein, dernières heures du Mercato. Alors on va faire un dossier notamment sur le cas du Paris Saint-Germain. Avant ça, si t'es là, c'est parce que c'est l'une des infos de la journée. L'OM est en passe de recruter un jeune portugais pour 30 millions d'euros.
Oui, effectivement, 32 millions d'euros même plus exactement. Vitinha, qui est arrivé à Marseille en fin d'après-midi, contrat de 4 ans et demi pour le jeune joueur de 22 ans. On le disait, transfert de 32 millions d'euros, bonus compris, c'est important de le préciser, avec 10% à la revente et une clause de rachat de 60 millions d'euros, c'est-à-dire que Braga sera prioritaire pour le racheter si jamais Marseille veut le vendre. C'est une réussite pour Pablo Longoria qui avait échoué, on le sait, dans le dossier Terem Moffi. Vitinha a dit non à plusieurs clubs, notamment Brighton et Southampton. Il voulait absolument venir à Marseille, convaincu par Pablo Longoria.
Alors sachez que Braga, il y a un club qui est coté en bourse, donc ça veut dire que le transfert va être annoncé sur les marchés financiers. On aura le montant exact du transfert. Il se dit qu'avec bonus, ça pourrait atteindre 32 millions d'euros, c'est ce que disait Fabrice. Roland, Vitinha deviendrait le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM.
Oui, après bon, c'est toujours pareil, ça dépend de son âge aussi et puis de la durée de son contrat. Donc les 32 millions, il faut les diviser par 4 ans et demi. Ça, c'est pas tout à fait pareil. Peut-être qu'un joueur de 30 ans comme Malinovski, ben il est avec les divisions, il est peut-être aussi cher, sinon plus que ce joueur-là. Par contre, ce qui nous intéresse, évidemment, passionnés de football, et de voir un petit peu après qui se renforce et qui se renforce pas, puisque tu sais la différence que je fais entre une recrue et un renfort.
Ouais.
Là, sur ce qui se passe du côté de Marseille, j'ai plutôt l'impression que ce sont des renforts que des recrues, avec évidemment toujours le point d'interrogation de se dire, bon, allez, tu fais un métier qui est le métier de footballeur, mais quand tu le fais à tel ou tel endroit, c'est une chose, oui. Et quand tu le fais à l'Olympique de Marseille, tu as l'impression de ne pas faire le même métier. Donc on attendra quand même leur intégration pour justement dire si ça a été un Longoria inspiré que nous avons eu là. J'ai l'impression que oui.
Alors on va s'arrêter sur Vitinha un instant et on va analyser ce joueur. Alors qui de mieux pour nous présenter Vitinha qu'un ancien joueur de l'OM qui a joué avec Vitinha à Braga. Rolando est avec nous en direct sur RMC. Salut Rolando, merci d'être avec nous. Au revoir Rolando.
Salut, bonsoir.
Salut Rolando.
Bon, comment ça va Rolando déjà ?
Bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Merci.
Toujours au Portugal ?
Ah oui. Là, je suis chez moi,
Alors Rolando, t'as côtoyé Vitinha à Braga, puisque t'étais à Braga jusqu'à la saison dernière. Est-ce que déjà t'as été étonné d'apprendre qu'il était en route pour Marseille ? Il est arrivé déjà à Marseille, on a vu les images qui ont défilé sur les réseaux sociaux notamment. Est-ce que ça t'étonne de voir Vitinha arriver à l'OM ?
Pour la qualité du joueur, non, ça ne m'étonne pas parce qu'il a de grosses qualités. C'est pour ça que l'OM a payé tous ces 32 millions. Mais je ne l'attendais pas parce que même j'ai parlé à une personne qui m'a demandé son numéro parce qu'il le voulait pour apporter à une équipe un de ce que vous avez dit là. En Angleterre, c'est pour ça que ça m'étonnait parce que je l'attendais en Angleterre et là je le vois dans mon OM, c'est bien.
Alors quel genre d'attaquant il est ce Vitinha Rolando ? C'est quoi son profil de joueur ?
Comme homme, je peux dire que l'OM va pas tromper. Je démarre pour là parce que je connais, il est un gamin, mais je l'ai bien aimé. J'ai côtoyé avec lui pendant 2 ans et c'est un grand mec, c'est un grand monsieur. Et le joueur, c'est un joueur avec une capacité de frappe très 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 bon. Il, Il a beaucoup appris pendant ces temps-là de Préga parce qu'il n'a pas passé dans des grands centres de formation. Et après, athlétiquement, il est très fort. Et après, il est un joueur qui quand même le supporter de Marseille, il mouille le maillot, il ne s'arrête jamais, il donne tout de soi. Et pour ça, je pense qu'il va réussir à Marseille.
Est-ce que tu dirais, Rolando, qu'il est adaptable au jeu et à l'exigence de Tudor? On voit ce que l'OM réalise depuis qu'Igor Tudor est l'entraîneur. Est-ce que tu le vois travailler avec un entraîneur comme Igor Tudor?
Je pense que parce que quand je regarde les matchs d'OM, même le format qu'il joue tactiquement, c'est un peu pareil que ce qu'il a fait pendant les dernières deux années à Praga. Et après, le profil de joueur que Tudor veut, c'est des joueurs qui presse beaucoup, qui joue vers l'avant, qui s'arrête jamais, qui après la qualité technique et la compréhension des jeux, il l'a et après il doit s'adapter à France parce que c'est pas le même football, mais je pense qu'il va s'adapter avec comme il est jeune, il devrait avoir besoin d'un peu de temps, mais il va y arriver, je crois. Là, je suis sûr.
Rolando, ça me fait plaisir de t'entendre. Donc, j'ai quelques questions à te poser. Déjà, en ce qui concerne le jeu de tête, est-ce qu'il a le meilleur jeu de tête que toi?
Oh, c'est difficile. Non, c'est différent parce qu'il est plus petit, il coupe bien les trajectoires. Moi, non, je suis un grand gabarit.
Plaisanterie mise à part, tu sais très bien comme moi qu'on progresse à tout âge et à tous les postes. Ce joueur-là, qui n'a que 23 ans, il y a évidemment une marge de progression importante. Dans cette marge de progression, si tu devais choisir, allez, une liste, en tête de liste, dans quel secteur il faut qu'il progresse?
C'est la compréhension du jeu, parce que comme j'avais dit, il n'a pas fait un centre de formation, il est arrivé au foot, on dirait. Il a pas longtemps, il avait avec 18 ans qu'il est arrivé à Praga. Il était dans un petit club de ville et on voyait qu'il avait l'envie, la dalle, qu'il a athlétiquement il est fort. C'était les déplacements, où se placer, c'est ça, mais avec...
Oh, justement, les déplacements... Ah oui,
et après, c'est difficile avec quand tu es jeune de comprendre tout d'un poste très spécifique. Quand tu joues devant, tu dois profiter des petits espaces et c'est pas facile. Et c'est ça qu'il devrait progresser, mais c'est normal pour un jeune de 22-23 ans.
Ben, en tout cas, on attend ça avec impatience parce que bon... Pour un joueur de 23 ans à un poste de numéro 9 qui signe à l'Olympique de Marseille, ben il faut, mais tu as commencé par la qualité importante. Et il faut une qualité déjà, pas seulement de football, il faut une qualité de mec. Et on va suivre ça avec beaucoup de curiosité. Mais alors, si son intégration se fait rapidement, ça va faire quand même un potentiel offensif de l'OM vraiment redoutable.
Alors Rolando est en direct avec nous sur RMC, lui qui a joué avec Vitinha, qui est en passe d'être officialisé du côté de l'Olympique de Marseille pour plus de 30 millions d'euros. Alors justement Rolando, il va arriver avec cette étiquette de la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, Vitinha. Est-ce que tu penses que ça peut être difficile pour lui à porter, toi qui connais aussi l'environnement marseillais?
Pour le prix, c'est pas facile parce que tout le temps, les gens va parler de ça, mais après un joueur cher, c'est un joueur qui joue pas. Pour moi, c'est ça. Et quand il était intégré dans l'environnement de Marseille, ça se passerait bien. Il va nous rendre tous heureux. Et j'espère ça. Et après, il a un joueur portugais aussi qui est là pour l'aider. Après, les gens de Marseille, c'est bien accueillir les joueurs. Et après, c'est un joueur qui, je peux dire, qui à Marseille, ça se passerait bien parce que sa façon de jouer, c'est comme ils aiment à Marseille. Après, pour intégrer, c'est le temps et tout ça. Et je crois que ça se passera bien.
Alors, tu sais qu'à Marseille, il y a le fantasme du grand attaquant depuis pas mal d'années. Est-ce que selon toi, Vitinha peut être ce grand attaquant que les Marseillais rêvent depuis si longtemps?
Moi aussi, je rêve que ce serait lui. Après, pour devenir un grand attaquant, tu dois avoir le temps de prouver. Et dans le foot, là, maintenant, il n'a pas beaucoup de. Les gens ne te donnent pas beaucoup de temps. Mais comme il est un jeune qui est arrivé dans le plus haut niveau, et je pense qu'il aura le temps dans 2-3 ans, il va être un grand attaquant, et j'espère qu'il a le temps de prouver pendant ce temps-là qu'il aide OM à réussir. C'est ça qu'on attend, mais je crois qu'il peut y arriver.
Tiens, juste un détail, Rolando, est-ce qu'il t'a appelé Vitinha avant de rejoindre l'OM? Parce que vous avez joué ensemble à Braga, tu connais bien Marseille. Il t'a appelé pour prendre des renseignements, des trucs comme ça?
Non, là, comme ça, ça s'est passé tout vite, et j'ai laissé un petit message, et je pense que pendant un temps, aujourd'hui, parce que ça... C'est beaucoup de choses qu'il doit faire, et après on va se parler, bien sûr, et après je vais le faire une visite là-bas, et comme ça je l'explique les trucs.
Et tu vas lui donner quoi comme conseil, Rolando, à Vitinha?
Oh, c'est beaucoup de choses, mais c'est de continuer à être comme il est, parce que j'ai démarré de dire qu'il est un grand mec, il est un monsieur, et de continuer, et après d'apprendre à gérer la pression, parce que ça peut changer, parce que jouer ici à Braga, c'est pas pareil jouer à Marseille pour la pression, parce que quand tu rentres au Vélodrome avec 65 000 personnes, c'est pas pareil, et c'est ça, d'être tranquille, de continuer à faire ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, et d'avoir confiance sur lui, parce qu'il est capable de le faire.
Rolando, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur RMC, Rolando. Merci.
Salut,
beaucoup.
Rolando, ça me fait plaisir de t'avoir entendu.
Voilà, prends soin de toi, Rolando. D'ailleurs, je rappelle, hein, on a fait une très belle interview pour le podcast Joga sur le football portugais avec toi, Rolando. Vous pouvez aller l'écouter, c'est une très très belle interview. Beaucoup d'émotions d'ailleurs dans cette interview, Rolando.
Ah oui, trop d'émotions.
Merci, Rolando. Merci beaucoup. Merci, à très vite, Rolando. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Ciao, bonne soirée.
Allez, dans quelques instants, supporters de l'OM, on vous attend au 32-16 pour venir commenter justement les mots de Rolando sur Vitinha, son ancien coéquipier. Et puis, on sera avec Pablo, notamment supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Et puis Fabrice Hawkins est avec nous également pour cette dernière journée de mercato. On va évoquer notamment les mercato du côté du Paris Saint-Germain. Il se passe pas mal de choses, hein, d'ailleurs, du côté de Paris, Fabrice. Ou peut-être pas assez, d'ailleurs.
Si, ils sont en train de bouger tranquillement. Hakim Ziyech, peut-être en train de se diriger tranquillement vers la factory, le siège du Paris Saint-Germain. On va suivre ça.
Toutes les infos, c'est dans un instant avec Roland Courbis, avec Fabrice Hawkins. Et avec vous au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
20h15, vous êtes sur RMC avec Roland Courbis, avec Fabrice Hawkins. On était avec Rolando, l'ancien joueur de l'OM, il y a quelques instants, lui qui a joué avec Vitinha. On passe d'être officialisé du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, il nous a bien analysé Vitinha. Tiens, avant d'évoquer le Paris Saint-Germain avec toi, Fabrice Hawkins, et les infos mercato, on va accueillir Pablo, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Salut Pablo.
Salut tout le monde, vous m'entendez bien, c'est bon?
Ouais, on t'entend. Salut, ça va Pablo?
Ça va, merci. Très content d'être à l'antenne. Je vous souhaite la bonne année. Hein. Ça
et bah, toi aussi. Toi aussi.
Moi, je suis assez surpris, agréablement surpris, en fait, du recrutement de ce jeune portugais, là. Parce qu'on a entendu plein de rumeurs ces derniers temps. Et en fait, évidemment, Pablo Longoria travaille toujours sur des pistes improbables que nous, dans le civil, on n'a pas, et que même qui peuvent surprendre les journalistes. Donc, c'est assez agréable de trouver toujours des joueurs sortis nulle part qui signent à l'OM. Et tout à l'heure, en fait, j'entendais Jérôme Rotten et Manu Petit qui disaient qu'ils s'attendaient à voir par rapport au contexte. Mais je pense, en fait, que dans la logique de Longoria, c'est, je pense, un des premiers paramètres qu'il voit et qu'il analyse en fonction des joueurs qu'il cherche à recruter. À savoir des mecs qui vont être assez imperméables à la pression. Et il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans son recrutement, je trouve, sur ces deux dernières années, parce que, avec l'exemple de Guendouzi, par exemple, qu'on disait qu'il était un peu feu follet et compagnie. Mais en fait, c'est une mentalité qui correspond à Marseille. Et si Vitinha est un peu dans cette ligne-là, c'est-à-dire un peu feu follet, un attaquant qui court, qui va mettre ses buts, alors qu'il va normalement avoir une clopée d'occasion, il risque d'en manquer, mais c'est pas grave. En soi, et même si ça tourne mal, en fait, je pense que Longoria réfléchit à se dire, même si ça tourne mal, il faut que le gars soit solide dans sa tête et qu'il nous fasse pas une Mitroglou ou une Germain, quoi. C'est que ça se transforme pas en ce genre de flop, parce qu'un flop à 30 millions, quand même, c'est assez cher pour les finances de l'OM. Donc, c'était, je suis assez content en fait de voir que, et en plus quand j'ai entendu Rolando parler, ça m'a rassuré aussi dans l'idée que ce garçon a un potentiel pour marcher à Marseille en fait.
Ouais. Il y a une part de risque hein, forcément, hein, Rolando.
Oui, mais
il sort de son cocon, ce jeune joueur. Il
y a toujours un nouveau pays, une part de risque, comme ouais. je te dis, et tu m'entendras toujours le dire, c'est que bon. On fait le métier de footballeur, mais le métier de footballeur comme le métier d'entraîneur, il est souvent différent suivant le club. Quand tu fais numéro 9 dans tes habitudes depuis l'âge de 10 ans, c'est une chose. Quand tu vas faire numéro 9 avec tous les numéros 9 qui sont passés et tu vas à l'Olympique de Marseille, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un grand point d'interrogation par rapport à l'intégration. Par contre, moi, là où je suis vraiment agréablement surpris, c'est de voir les arrivées et de voir aussi les départs, ou plutôt les non-départs. Klos, qui est demandé par l'Atlético, bon, ou peut-être pas complètement, mais enfin un peu, mais il reste là. Guendouzi, Aston Villa, il reste là. Malinovski, qui arrive, bon, et ben aussi, où Unai d'Angers, on l'a vu en Coupe du Monde. Là aussi, c'est un grand point d'interrogation. Est-ce qu'il va s'intégrer? Mais s'il s'intègre petit à petit dans les 5 mois qui arrivent pour la saison prochaine, ça fait quand même un effectif de qualité et de quantité. Tous les postes sont pratiquement doublés. Par rapport à la saison dernière, si je veux continuer à rester emmerdant, eh ben il va falloir un petit peu progresser et que nos arrières centraux progressent. Les deux gardiens sont bons. Sincèrement, ça fait une grosse équipe avec un gros effectif et un Tudor qui a toujours la même organisation et qui va pouvoir faire ses changements tranquillement. L'autre jour, il nous a inventé un Tavares à droite et c'était d'ailleurs une très très bonne idée. Ben, il va pouvoir se servir de ces 5 changements et je termine aussi sur ce qui me paraît être très important, c'est que maintenant, mis à part les semaines comme celle-là où il y a une journée le mercredi, eh ben, le mardi, le mercredi et le jeudi, tu es devant la télé, tu regardes tes adversaires.
Pablo, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
À bientôt, Pablo. Mais tu reviens quand tu veux.
Bonne soirée.
32-16, tu sais que t'es à la maison. Merci, Pablo. Bonne soirée à toi. On va basculer sur le Paris Saint-Germain, Fabrice Hawkins. Alors, il y a pas mal de choses, d'informations ce soir. La première, elle concerne Hakim Ziyech. Alors, qui passait sa visite médicale. On en est où, alors, avec Hakim Ziyech, Fabrice?
Alors, pour refaire le déroulé rapidement de la journée d'Hakim Ziyech, il est arrivé tranquillement ce matin à Paris. Ensuite, il a passé sa visite médicale autour de midi à l'hôpital américain de Neuilly. Visite médicale qui s'est plutôt bien passé, mais il y a une attention particulière qui a été portée à son genou. Le doute a été levé assez rapidement, donc la visite médicale a été validée. Ensuite, il a patienté assez longuement dans un hôtel parisien assez connu de la capitale.
Le Formule 1.
Un petit peu plus cher quand même. Et là, il vient d'arriver à la Factory. Ça y est, il vient d'arriver à la Factory, donc au siège du Paris Saint-Germain. Donc on imagine que les négociations avancent dans le bon sens entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Tout avait été fait en tout cas pour qu'il soit prêt à signer ce contrat tout simplement. Et donc là, on va dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, en tout cas il faut que ce soit avant 23h pour l'envoi du contrat à la LFP, savoir s'il y a eu accord total entre Chelsea et le Paris Saint-Germain.
T'en penses quoi d'Hakim Ziyech? C'est un peu surprenant, Roland.
Oui et non. Dans le sens que, bon, à partir du moment où Sarabia part, Ziyech. En plus, on a eu le plaisir d'entendre Walid Regragui hier soir.
Très bon hier dans
que j'ai trouvé.
Allez l'écouter en podcast, d'ailleurs.
Que j'ai trouvé tout simplement brillant.
Tu dis ça parce qu'il a dit des trucs sympas.
Ah, non.
Ben oui, bien sûr.
Ah, ben ça, c'est tout à fait logique. il pouvait pas dire le contraire. Non, allez, je déconne. Mais sincèrement, quand on l'écoute hier pendant une heure, on comprend mieux comment ça peut se passer du côté du Maroc ou des clubs qu'il a entraîné, n'oublions pas quand même qui gagne la Champions League
avec le Wydad.
Avec le Wydad, donc ce qui est pas évident du tout. Mais pour ce qui est du Paris Saint-Germain, voir Ziyech allez renforcer l'effectif, je dirais pourquoi pas, mais je m'attendais plutôt à ce qu'ils insistent sur l'arrière central.
Le défenseur Skriniar, parlons-en. On en est où cette histoire, alors?
Et d'ailleurs, c'est peut-être encore pas terminé. Mais je suis surpris qu'ils n'arrivent pas à trouver une formule où tout le monde sera content.
Skriniar, on en est où? On est un petit peu moins optimiste quand même que pour Hakim Ziyech, tout simplement parce que Skriniar avait une condition qui était fixée par l'Inter, c'est de pouvoir récupérer un défenseur pour ensuite, dans un deuxième temps, le laisser filer. Le mercato italien se termine à 20h et a priori, il n'y a pas eu d'arrivée. Ils étaient sur Mairie de Miral, l'Atalanta Bergame n'était pas très chaud pour le laisser partir. Donc, à l'heure où on parle, il n'y a toujours pas d'arrivée côté Inter Milan, donc ça va être très compliqué. On sait aussi, selon nos informations, que le Paris Saint-Germain voulait absolument recruter Milan Skriniar, avec qui un accord déjà pour l'été prochain, mais il voulait le récupérer dès cet hiver parce qu'il y a un besoin, parce que c'est un joueur qui peut apporter, et coach le disait. Donc ils vont tout tenter pour essayer de le rapatrier, mais a priori c'est compliqué.
Oui, alors au final l'Inter le lâche pas s'ils ont pas de remplaçant, tout simplement. Ça peut s'entendre.
Alors c'est cuit s'il le lâche pas, ils n'ont pas de remplaçant et c'est 20h23.
Toi, tu dirais que où est-ce que le Paris Saint-Germain aurait dû recruter prioritairement en défense aussi ou pas? Ou alors fallait remplacer Sarabia absolument?
Ah, les deux. Donc parce qu'on est quand même de plus en plus inquiet en ce qui concerne Kimpembe. Kimpembe, on nous a dit au début, ouais, ça va, 15 pas jours, 3 semaines, mais en vérité, 15 jours, 3 semaines, les 3 semaines se sont transformées en 3 mois et c'est pas fini.
Alors, autre dossier également, Keylor Navas. On en est où là aussi? Keylor Navas partira pas à Nottingham Forest?
Là aussi, on attend d'en savoir un petit peu plus. Keylor Navas, la situation, elle n'a pas vraiment bougé depuis plusieurs heures. Ça souffle entre le chaud et le froid. Keylor Navas qui pourrait partir à Nottingham. Là aussi, on rappelle la deadline, à 23h. Seulement, le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas d'accord financier entre le Paris Saint-Germain, Nottingham et Keylor Navas. Prêt ou pas? Qui est-ce qui prend en charge le salaire également? Parce que Keylor Navas, il veut pas être lésé dans l'affaire financière. Donc c'était sur ce volet financier que ça bloquait depuis plusieurs heures. Il y avait d'un côté, on nous disait que ça avançait dans le bon sens. De l'autre, on rétro-pédalait, on nous disait attention, ça va être compliqué. Donc tant que c'est pas signé là aussi et tant qu'on ne sait pas quelle heure Navas a pris l'avion en direction Nottingham, ça va être compliqué.
Ça veut dire que sportivement, lui, il est chaud pour aller là-bas?
Oui, il est chaud pour aller là-bas. Et d'ailleurs, c'était pas forcément le cas dans les projets qu'on avait proposés à Keylor Navas parce que c'est un grand gardien. On l'a révélé tout à l'heure sur RMC au moment où le Bayern Munich cherche un gardien et se positionne sur Schmeichel de Nice. Nice passe un petit coup de téléphone pour essayer de récupérer Keylor Navas.
Et le Bayern, ils veulent pas appeler le PSG.
Ça s'est pas fait dans ce sens-là, en tout cas.
Par rappel, je suis directeur sportif du Bayern, c'est Navas que je vais chercher, moi.
Ils ont préféré aller chercher dans un premier temps Schmeichel et puis finalement Yann Sommer. Tout ça pour dire qu'il a pas toujours été chaud pour tous les projets et là, il est plutôt partant pour aller.
Il y avait Al-Nassr aussi, je crois, les Saoudiens qui ont pris Ronaldo.
Oui, bien sûr, Al-Nassr qui sont venus et qui proposaient des conditions assez intéressantes, mais lui veut quand même continuer en Europe.
Roland. Alors franchement, ça, je sais que c'est une thématique qui te tient à cœur, celle des gardiens au Paris Saint-Germain. Là, c'est une épine dans le pied, enfin, c'est un caillou dans la chaussure, c'est tout ce que tu veux. Il avait dit, Luis Campos dans Rotten sans flamme en septembre dernier, avoir deux grands gardiens, c'est problématique pour le Paris Saint-Germain. Le problème, il est toujours là, Roland.
Oui, mais dans tous les cas, en ce qui concerne Donnarumma, Navas, tu sais ce que je pense. Je pense que Donnarumma est
moins bon
et sera certainement très très bon dans les années à venir. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on n'est pas en train de penser que le Paris Saint-Germain doit gagner la Champions League dans un an, dans deux ans ou dans trois ans, c'est-à-dire la durée du contrat de Donnarumma. Ils doivent la gagner tous les mois de mai qui arrivent. Et pour moi, aujourd'hui, Navas, peut-être que c'est légèrement, mais Navas est légèrement supérieur à Donnarumma. Donc ça, c'est mon point de vue, mais c'est pas parce que c'est mon point de vue que c'est obligatoirement le bon, mais c'est le mien.
Supporter du PSG, on vous attend 32-16 avec Roland Courbis, avec Fabrice Hawkins, supporter de l'OM également, si vous voulez réagir notamment à l'officialisation imminente de Vitinha. Il est arrivé à Marseille, l'attaquant portugais de Braga qui devrait être officialisé pour plus de 30 millions d'euros. On a écouté Rolando, qui a été son coéquipier au Portugal et ancien joueur de l'OM qui l'a analysé il y a quelques instants. On va marquer une pause, on va revenir dans quelques instants avec Roland Courbis, avec Fabrice Hawkins. Et l'antenne est ouverte. Voilà, 32-16, on vous attend. Réagissez aux infos mercato en ce qui concerne l'OM, en ce qui concerne le PSG, en ce qui concerne votre club d'ailleurs. Je vous rappelle également qu'à 20h45, dans moins de 20 minutes, coup d'envoi de la 21e journée de Ligue 2, Multi-Ligue 2 à suivre sur RMC. A tout de suite.
RMC, l'After Live.
Nicolas Villas.
Dans un quart d'heure, le coup d'envoi du Multi-Ligue 2, 21e journée de Ligue 2 à suivre sur RMC dans quelques instants. Mais avant cela, dernières heures avant la clôture du Mercato, notre monsieur Mercato, Fabrice Hawkins est avec nous. Roland Courbis également est toujours avec nous. On a fait un point sur l'OM. Vitinha en face d'être officialisé pour plus de 30 millions d'euros, l'attaquant qui était à Braga. Au Paris Saint-Germain, on a fait le point sur Ziyech, Skriniar et Navas. T'as d'autres infos, Fabrice, aussi, notamment du côté de l'OL, je crois.
Oui, avec Jeffinho, joueur de Botafogo, ancien joueur de Botafogo qui arrive à l'OL, 23 ans, qui club qui appartient à Botafogo aussi à John Textor. Hein. D'ailleurs, ça crée pas mal de soucis là-bas au Brésil. Contrat donc jusqu'en 2027, transfert de 10 millions d'euros, plus 2,5 millions d'euros de bonus.
Ouais, alors, si Fabrice dit ça fait pas mal parler au Brésil, c'est que quand Textor a racheté Botafogo, il a dit ce sera la tête de gondole de mon projet. Et là, d'accord. Botafogo, ils se disent... En gros, t'enlèves nos meilleurs joueurs et tu les envoies chez ton nouveau club, à savoir l'OL, quoi. Donc, ils ne vivent pas très bien, tu vois.
Ouais, il y a peut-être 2-3 Lyonnais en fin de parcours qui pourront.
Ah, mais ils veulent pas faire le sens inverse.
Mais bon.
Ils veulent la casser, Hachi.
Il y a aussi, en ce qui concerne l'actionnaire qui a changé de club et tout, bon, il y a aussi, alors, à ce moment-là, ce même problème à Lorient, non?
C'est-à-dire?
Avec, c'est Ouattara.
Oui, à Bournemouth.
Ouais,
ouais. Ça, on le sait, les clubs le font. Et
sauf que là, les promesses sont différentes, tu vois. C'est pas un actionnaire majoritaire, enfin, c'est un peu différent.
Ah bon, mais là, excuse-moi, mais je suis dépassé.
C'est pas grave. On va accueillir Franck, supporter de l'OL, qui nous a appelé au 32-16. Salut Franck.
Oui, bonsoir à tout le monde.
Ça va, Franck?
Bonsoir. Ça va, impeccable.
Bon, salut, déjà, Franck.
En ce qui concerne... Bonsoir, coach. En ce qui concerne Botafogo, moi, je m'en fous complètement de Botafogo.
ouais, mais c'est eux qui s'en foutent pas.
Nous, à Lyon, on s'en fout complètement. Et nous, Français, on devrait s'en foutre aussi. Voilà, on a été prendre des joueurs là-bas. Il y a d'autres équipes qui ont dû le faire ailleurs. Et puis voilà. Donc, en fait, ça, moi, ça me complètement égal. Donc, on a un joueur. On verra déjà si c'est un bon joueur. Moi, je le connais pas. Apparemment, d'après Marcel, c'est un bon mec. Donc, on verra bien. Moi, je voulais en venir sur un plan business, hein, puisque tout à l'heure, vous parliez de Marseille. Je voulais faire le parallèle avec... Avec Lyon, moi, ça fait déjà 2-3 ans Ronan va peut-être pouvoir m'expliquer, hein, comment fait Marseille pour sortir l'argent qui sort, alors que depuis 2-3 ans, on dit qu'ils sont en proie, ils ont des problèmes financiers, qu'ils vont être interdits là. Et moi, je pense qu'ils prennent un très gros risque. Alors, n'y voyez pas en moi d'être jaloux ou quoi que ce soit, hein, parce que vous savez, le foot, ça va très vite. Hein, l'année prochaine, peut-être qu'on sera au top à Lyon, j'en sais rien. Mais moi, je comprends pas comment ils font. Et voilà, c'est inexplicable, quoi. Après le business plan, je pense qu'il est très risqué de Marseille, parce que peut-être que Ronan va confirmer ce que je dis, mais je pense qu'ils sont pratiquement sûrs. Et eux, ils pensent qu'ils vont aller en Ligue des Champions. Mais s'ils ne sont pas en Ligue des Champions l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez Monaco, Rennes, Lens quand même, hein. La place, elle
n'est
pas réservée à Marseille.
Oui, mais voilà, la question, on peut aussi se la poser, ok, et on peut aussi essayer de réfléchir tous ensemble. Si l'OM n'est pas en Ligue des Champions la saison prochaine, on peut quand même penser qu'il y a un potentiel joueur où ils seront obligés de vendre. Normalement, on a entendu comme disque, est toujours le même, à tel ou tel endroit, on ne peut pas acheter si on ne vend pas. Eh bien là, ils ont acheté sans vendre. Mais dans 4 mois, tu peux vendre.
Ils ont quoi à vendre? Mais Roland, ils ont quoi à vendre? Ils ont quasiment la moitié de l'effectif qui est en prêt.
Bah non, t'as un Guendouzi.
Mais justement, si par exemple tu signales, qu'il y a eu des joueurs qui sont arrivés et qu'on se demande où l'argent a été pris, Vitinha. Non, c'est comme ça qu'on
voit. Oui, Vitinha, oui.
Eh ben, donc, s'il coûte 30 millions, on peut penser quand même que dans 4 ou 5 mois, son prix ne va pas obligatoirement baisser. Pareil pour Guendouzi. On peut penser que s'il y a 2-3 offres du côté de l'Angleterre pour Guendouzi, on peut penser que dans 4 ou 5 mois, eh ben, on pourra vendre Guendouzi. Il y a quand même 4 ou 5 joueurs qui sont quand même possibles de vendre.
Un détail également en ce qui concerne le paiement de Vitinha à Franck, si Marseille paye plus que le montant de la clause libératoire, à savoir 30 millions, c'est parce qu'ils ne payent pas cash. Ils ne vont pas payer 32 millions d'un coup. Hein. C'est échelonné, non,
moi,
le paiement.
Vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Je ne suis pas convaincu, moi, de cette histoire.
Ah bah d'accord, mais Longoria a dit en conf il n'y a pas longtemps que les comptes étaient sains et ils étaient à l'équilibre.
Faites le bilan. Essayez de faire un jour, vous faites une émission là-dessus, faites le calcul de la valeur joueur de Marseille qui sont à eux. Et expliquez-moi comment ils vont faire s'ils sont pas en Ligue des Champions l'année prochaine.
Mais Franck, ça veut rien dire la valeur joueur. Ce qui compte, c'est combien tu le vends au moment où tu le vends. C'est ça que je veux dire.
Oui, mais, non, mais d'accord. Mais enfin, ils ont un prix sur le marché.
Moi, tu m'aurais dit, Franck, oui, moi qui suis la Liga portugaise, tu m'aurais dit, il y a encore 15 jours, alors qu'il avait planté un triplé, tu m'aurais dit, ils vont vendre Vitinha à 30 millions d'euros, j'aurais rigolé. Je t'aurais dit, mais ce garçon, il sera jamais vendu 30 millions d'euros, à moins qu'il aille en PL et qu'il y ait un panic buy d'un club de PL, ce qui a failli se passer d'ailleurs. Bah, pourtant, regarde, là, il part pour 30 millions d'euros, tu vois.
Donc, pour toi, ils l'ont acheté trop cher.
Non, pour moi, ils l'ont acheté le prix fort, en fait, ouais. Mais ça veut pas dire trop cher. Mais ce que je veux dire, c'est que la valeur d'un joueur, c'est, ça dépend du moment. Ça dépend, si t'as un club qui est en galère, qui veut acheter ou qui veut investir.
Les amis, si je peux me permettre de rectifier un petit peu. En ce qui concerne le prix fort ou pas fort, comment on peut savoir si c'est le prix fort quand il faut diviser les 32 millions par 4,5 et quand depuis que ça s'est conclu, ce transfert de Vitinha, on parle uniquement du montant de transfert qui a battu tous les records. Et son salaire, il a battu tous les records. Qui c'est qui est au courant de son salaire? J'ai pas encore entendu parler, à moins que le salaire d'un joueur, c'est pas de l'argent. Et bien à ce moment-là, là, j'arriverai à suivre. Donc ce qu'on ne sait pas, quand on entend parler que le SMIC du côté de certains clubs, c'est 500 000 euros, 700 000 euros, 800 000 euros, 1 million d'euros du côté de l'Olympique de Marseille, il y a quand même pas ces chiffres-là. Un garçon comme Vitinha, il est certainement venu pour 400 ou au grand maximum 500 000. Et là, à ce moment-là, eh ben, dans l'époque que nous vivons, est-ce que c'est vraiment un gros salaire? Alors, je sais plus, moi, qu'est-ce que c'est un gros salaire.
On remercie Franck de nous avoir appelé au 32-16 et on accueille Pierre, supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16 lui aussi. Salut Pierre.
Ouais, bonsoir à tous, bonsoir l'équipe.
Alors Pierre, je crois que tu voulais réagir à l'officialisation imminente, là aussi, d'Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain.
Ouais, voilà. Bah, pour moi, Hakim Ziyech, si tu veux, c'est sur le papier, c'est un bon joueur. Mais comme tous les joueurs qui arrivent au Paris Saint-Germain en général, tu vois, le problème, c'est que ce club aujourd'hui, on voit bien qu'il décide n'importe quel joueur. Donc, c'est-à-dire que le joueur, il peut avoir une valeur quand il arrive au PSG. Une fois qu'il arrive au PSG, il s'éteint tous. La question, moi, la vraie question que je me pose, c'est parce que il n'y a pas de cohérence sportive en fait. On voit que ils ont mis les trois devant. Ils sont très contents. Et puis derrière, le milieu, il n'a jamais été remplacé. En défense, on prend Ramos qui est cramé pour on vire Thiago Silva qui était encore bon. Il n'y a pas de cohérence. Moi, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que le PSG, ou est-ce que le Qatar plutôt, a toujours l'ambition de gagner la Ligue des Champions? Parce que faut pas oublier, quand ils arrivent, c'est dans une idée de soft power, donc pour faire rayonner le Qatar à l'international. Et que... si tu veux, au début, ils voulaient gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans. C'est ce qu'ils avaient déclaré, etc., etc. Donc, il y a eu la première phase. Et puis après, quand ils ont fait Neymar, ils se sont rendus compte que ils commencent à vendre du maillot, que, etc. La marque, si tu veux, PSG se développait, etc. Et que donc, ils atteignaient leurs objectifs comme ça. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est plus important pour eux d'ouvrir une boutique sur la 5e avenue à New York que d'avoir une cohérence sportive. En fait, la vraie question, c'est ça. Et aujourd'hui, en tant que supporter, nous, on se dit quoi? Nous, on aime notre club, on a envie que notre club il brille. Le truc, c'est que on n'a pas l'impression que le club il soit au centre. En fait, aujourd'hui, c'est plus l'intérêt, quoi. Moi, c'est ça qui me désespère.
Tu veux dire par là qu'il y a une avant Coupe du Monde et une après Coupe du Monde?
Même avant ça, je pense qu'il y a un avant Neymar Mbappé. Et un après Neymar Mbappé, voilà, parce que ça a tellement fait parler le mercato où ils les ont fait venir les deux, etc., etc. Voilà, notamment de le prendre au Barça, de prendre Neymar au Barça, de shipper Mbappé au Real, etc. Voilà, je veux dire en termes de communication, de marketing, etc. Aujourd'hui, voilà, c'est une équipe All-Star en fait, c'est une équipe All-Star. Mais est-ce qu'il y a une cohérence là-dedans? Tout le monde s'accorde à dire que tu peux pas faire les jouer les trois en même temps devant, parce que de toute façon les trois ils défendent pas, et que partant de là déjà, tu peux pas gagner une grande compétition si tout le monde est pas raccord. Sur le repli défensif, etc. Si t'as pas d'esprit d'équipe, en fait. Et moi, ce qui me dérange aujourd'hui, tu vois.
Ok, bah écoute, voilà, tu comprends pas trop, en gros, la politique de tes dirigeants. T'as l'impression qu'ils font plus du business que du sportif, quoi, si je résume bien.
Ouais, c'est ça. Nous, en fait, en tant que supporters, je pense parler pour la plupart des supporters. On a un peu le cul entre deux chaises parce que quelque part, tu te dis, ben, on est obligé de dire merci parce que si on n'avait pas été racheté par le Qatar, on n'aurait pas atteint cette dimension. Mais aujourd'hui, ça se retourne un peu contre nous aussi parce qu'on a l'impression que le club, en fait, ben, c'est juste un, ça devient juste un élément marketing, en fait, tout simplement, tu vois. Une marque, quoi. Juste une marque, en fait. Un truc à fans. Et les supporters, ils passent au second plan. Et aujourd'hui, c'est les fans qui font. On invite les premiers Pékin à aller voir des matchs, les influenceurs, etc., etc. Enfin bon, on s'éloigne du sport, quoi, en fait. Ouais. On s'éloigne carrément du sport.
OK. Merci Pierre d'avoir été avec nous. En tout cas, bonne soirée à toi Pierre.
Ouais, merci les gars, bonne soirée.
Merci, bonne soirée, bisous Pierre. Dans 4 minutes, coup d'envoi du Multi League 2. On sera avec nos correspondants, avec Benoît Boutron pour suivre ses affiches et avec Roland Courbis, bien entendu. Débat Mercato qui suivront ce soir avec Fabrice Hawkins dans l'after, bien entendu, juste après ce Multi League 2. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'after live.
Nicolas Villas.
Toujours en compagnie de Roland Courbis. Dans 2 minutes, coup d'envoi du Multi League 2 sur RMC avec nos correspondants. Bien entendu, il y a notamment une très très belle affiche qui nous attend ce soir. Les deux premiers s'affrontent. Bordeaux, le leader, face au Havre. C'est un match qu'on va vivre avec Nico Paolorsi. Salut Nico.
Salut les gars, bonsoir à toutes et à tous.
Salut Nico. Quelle belle affiche Nico quand même.
Superbe affiche entre le Havre qui domine cette Ligue 2, 7 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux et des Bordelais qui sont relancés en battant Dijon 3-0 le week-end dernier, alors que c'était un petit peu plus dur ces dernières semaines. Deux équipes qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, parce que le Havre certes avait des ambitions, mais pas de là à écraser la Ligue 2 de la sorte. Et puis les Girondins ont vécu un été tellement compliqué que, on va pas dire que c'est miraculeux, mais pas loin quand même de les voir occuper cette deuxième place de la Ligue 2. En plus, les deux effectifs sont quasiment au complet. Grosse absence côté havrais, c'est celle de Gauthier Loris en défense centrale. Le Havre, coach, qui n'a encaissé que 8 buts en 20 matchs de championnat. Les Girondins, c'est pas mal, ils en ont pris 14. Mais ils sont monstrueux de solidité, les Havrais. En plus, le match but atlantique est plutôt rempli pour un mardi soir. C'est un choc. C'est un choc avec l'objectif Ligue 1 derrière.
Voilà, le Havre leader avec 7 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux. Le troisième au classement, Sochaux reçoit Valenciennes. Match qu'on va vivre avec Sébastien Ruffet. Salut Seb.
Salut tout le monde, bienvenue à Bonal. Et ça démarre un instant ici au stade Bonal entre Sochaux. Oui, ça parle de partout. Entre Sochaux et Valenciennes, et évidemment Sochaux qui va regarder d'un petit œil ce qui se passe entre Bordeaux et Le Havre, bien sûr, avec ces Sochaliens qui, ces dernières semaines, ont perdu de justesse à chaque fois 2-1 contre les Bordelais, 1-0 contre les Havrais. Ils ont laissé un petit peu de laisse, mais ils sont toujours dans le coup après leur victoire la semaine dernière, presque miraculeuse. À Saint-Étienne, ils se sont relancés après 3 défaites consécutives. Ils sont à nouveau dans le coup et ils peuvent profiter ce soir d'un résultat qui leur serait favorable. Mais pour cela, d'abord, il faut battre cette équipe de Valenciennes, 12e, mais qui prend aussi peu de buts, qui en marque pas beaucoup, mais qui est la 4e défense et qui est venue également pour prendre des points et se rassurer aussi.
Allez, c'est parti à Guingamp. Et autre affiche vintage, Bastia Saint-Etienne, ce sera avec Julien Pernici. Salut Julien.
Salut Nico, salut à tous. Salut, 56 Julien. Secondes de jeu, toujours 0-0 entre Bastia et Saint-Etienne. Un match aussi très intéressant en termes d'enjeu, puisque les Stéphanois, on le sait, ils ont vraiment besoin de points pour essayer de sortir la zone rouge. Gaëtan Charbonnier, incertain, un temps, est titulaire. Et puis les Bastiais, en cas de victoire ce soir, les Bastiais qui d'ailleurs sont la meilleure équipe du championnat depuis la reprise de la Coupe du Monde, eh bien, les Bastiais qui sont déjà 5e, en cas de victoire ce soir, ils pourraient commencer peut-être à rêver de se mêler à la course à la montée. Donc, énorme enjeu des deux côtés, donc toujours 0-0 entre Bastia et Saint-Etienne du côté d'Armanchez, où 300 supporters stéphanois ont quand même fait le déplacement.
Mais c'est pas
et
mal.
C'est parti à Bordeaux.
Enfin, on va revenir, Nico, pour lancer entre Bordeaux et Le Havre. C'est parti à Grenoble, entre Grenoble et Quevilly-Rouen. Salut Edouard G.
Salut Nico, salut coach, bonsoir salut à tous. Deux petites minutes de jeu pour l'instant, 0-0 dans une entape un petit peu confuse. Il y a quelques fautes techniques, même si les Normands là-bas vont peut-être tenter de rentrer dans la surface de réparation. Le centre, c'est directement dans les bras de Brice Maubleu, le capitaine grenoblois, des Grenoblois qui sont en mal de victoire, de succès. Ici, ils ne marquent pas de but, ils ne gagnent pas, ils perdent même face à Bastia, notamment le week-end dernier. Et du coup, le classement qui était prometteur il y a quelques semaines, l'est beaucoup moins désormais. C'est une descente un petit peu dans le ventre mou à la 7e place face à cette équipe de QRM 9e. Donc, l'envie de se relancer pour les hommes de Vincent Ognon. Pour l'instant, 2 minutes 30 de jeu, 0-0, aucune action de part à l'autre.
C'est parti à Roudourou entre Guingamp et Nîmes. Salut Xavier Grimaud.
Salut Nicolas, bonsoir à tous. On a parlé un peu des équipes qui visent le haut là. C'est un petit peu moins bon, ah ouais, hein, du côté de mes deux équipes. Guingamp 10e, Nîmes 18e et en position de, donc de relégable. Les Guingampais qui ont perdu leurs illusions depuis bien longtemps pour essayer de jouer les avant-postes. On va essayer plutôt de se mettre à l'abri face à Nîmes qui a enfin gagné depuis que Frédéric Bompard, l'ancien coach d'ailleurs de Guingamp, a pris les rênes du Nîmes Olympique. Ils ont enfin gagné le week-end dernier face à Niort, 3-2. Donc on va essayer de gagner ici en Bretagne pour sortir de la zone rouge. Guingamp qui arrive sur 3 défaites de suite à domicile. Bref, équipe un petit peu de malade quand même pour ce Guingamp Nîmes. 3 minutes de jeu, 0-0.
Et deux autres équipes qui ne sont pas au top dans la bonne partie de tableau, on va dire, le PFC et Pau. C'est avec Clément Brossard. Salut Clément.
Salut Nico, salut coach. En effet, c'est sont deux équipes là à Charletti ce soir qui s'affrontent et qui sont pas dans une très bonne position. Le Paris FC qui reste sur deux défaites en Ligue 2 consécutive et Pau de son côté qui n'a plus gagné depuis quasiment trois mois avec la Coupe du Monde, c'est vrai, mais six matchs de Ligue 2 sans la moindre victoire pour les hommes de Didier Tolo. Il y aura quelques hommes à suivre tout de même sur la pelouse de Charletti qui est désastreuse encore en termes d'état ce soir et avec un public qui, on sait le nombre de grévistes qu'il y a eu en France aujourd'hui, a fait un peu grève aussi pour éviter de se déplacer à Charletti, notamment le gardien India est côté palois parce que le gardien numéro 1 Alexandre Oliero est parti aujourd'hui dans la dernière journée de Mercato pour jouer les doublures à Reims en Ligue 1 donc, et c'est ce jeune gardien qui jouera son deuxième match de Ligue 2 en carrière et puis également des choix côté Paris FC avec sur le banc le meilleur buteur Guy Lavogui ou encore les recrues Ivan Masson prêté par Saint-Etienne qu'on pourrait voir aujourd'hui jouer son premier match sous les couleurs du Paris FC. 0-0 entre les deux PFC de cette Ligue 2 après 4 minutes de jeu.
Et les 4 autres matchs qu'on va vivre avec notre monsieur Ligue 2, l'homme du podcast Ligue 2 que vous pouvez écouter, bien entendu, allez le télécharger. Benoît Boutron, salut Benoît.
Salut Nico, le vrai foot est là.
Salut Benoît. C'est un plaisir.
Oui, 4 matchs qui sont partis également à 20h45. Metz, Rodez, Niort, Amiens, Annecy, Caen, Laval, Dijon. Pas de but pour l'instant, mais rassurez-vous, ça va venir assez vite.
Ah, qui fait des promesses et tout. Donc t'as décidé de commencer direct par les clichés, toi. Les phrases débiles.
Non mais ça c'est un vrai championnat où il y a du suspense en haut et en bas du début à la fin.
Oh, la barre transversale pour les Girondins. La grosse occasion pour Bordeaux avec ce centre venu de la droite de Bakoua. Il y a personne au deuxième poteau. Nsimba peut provoquer, essayer de mettre un ballon entre Desmas et les 5-50. L'arrêt du gardien qui retombe sur un Bordelais. J'ai l'impression que c'est de l'extérieur du pied que Maja ou Junior Mwanga la met sur le haut de la barre transversale du Havre. La domination était plutôt bordelaise après 4 minutes de jeu. 0-0 entre Bordeaux et le Havre, mais les Girondins déjà montrent leurs intentions dans ce choc.
C'est pas mal, grosse occasion là pour pour les Bordelais, Roland. Il va être sympa ce match-là. On l'a vu, le Havre, c'est souvent sur le fil, là, du moins depuis 2-3 matchs, là, Roland. Ça gagne à l'arrache, du moins ça perd pas. Là, c'est un vrai test pour eux.
Donc, ils sont pas, si tu veux, dans leur meilleure période. Mais ils perdent pas quand même. Ils gagnent à droite, à gauche. C'est ça, très compliqué de les empêcher de terminer, peut-être pas premier, mais terminer. Au moins second, je pense que ça sera très compliqué de les en empêcher.
Et puis je vous rappelle, on est dans le Multiligue de 21e journée, c'est la dernière journée du Mercato. Fabrice Hawkins qui peut intervenir dans cette soirée à n'importe quel moment s'il y a des infos qui tombent. Et puis toutes les infos que vous retrouvez également sur rmcsport.fr. Bordeaux-Le Havre, le leader qui est chez son dauphin. 0-0 pour l'instant. Nico Paul-Orsi, tu l'as dit, mais grosse occasion pour les Girondins il y a quelques instants.
Exactement, il y a des joueurs de côté bordelais qui font mal à la défense havraise. On le disait, orpheline de Gauthier Loris, qui est vraiment le patron de cette défense à vrai. 0-0, 5 minutes de jeu, la touche pour Vital Nsimba. On est dans la moitié de terrain des Normands avec ce ballon qui va repasser jusqu'à Stian Gregersen pour Franck Sergio qui va orienter le jeu sur sa droite. Il y a Malcolm Bokele qui essaie de trouver une solution. Il va finalement retrouver son capitaine Johan Barbet, auteur d'un doublé contre Dijon ce week-end avec un sublime coup franc direct. C'est rare de voir un défenseur central à droite dans cet exercice. Il a vraiment mis un super ballon. Attention à ce contre à vrai avec Yacine Keshta qui va décaler. Allez, ça s'est bien fait sur le côté gauche. Opéry, il est en contre face à Bokele. Il va rentrer dans la surface de réparation devant le virage sud. La défense solide des Bordelais qui vont pouvoir se dégager. Costaud là, Malcolm Bokele, il ne s'est pas livré. 0-0, bientôt 6 minutes de jeu.
Sochaux Valenciennes, Sébastien Ruffet, comment va le troisième de Ligue 2 ce soir?
Pour l'instant, après 7 minutes, il va plutôt pas mal. Il a pris les choses en main, ce troisième de Ligue 2, avec de belles intentions, notamment tout à l'heure, ce jeu en triangle entre Tony Mauricio, Gaëtan Weisbeck, qui trouve dans la profondeur Ibrahima Sissoko, mais sa frappe a été contrée par un défenseur. Première incursion dangereuse, puisqu'on était vraiment assez proche du but, 7-8 mètres. Mais voilà, des Valenciennes qui reculent de plus en plus. Attention à ne pas laisser trop d'espace à cette équipe de Sochaux, mais on sent une volonté de jouer le contre chez les Valenciennes, avec notamment Hugo Bonnet devant. Voilà pour l'instant. Et puisqu'on parle mercato, on attend peut-être du côté de Sochaux ce soir une signature pas mal, ce serait Damien Le Talec peut-être. Ah ouais. Voilà, il y a des rumeurs persistantes qui l'amèneraient avec son frère pour la photo en tout cas. Anthony bien sûr, pourquoi pas, affaire à suivre en tout cas. Tout à l'heure on n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus, on m'a dit la soirée est encore longue, Chelsea peut encore faire 12 recrutements de manière un petit peu ironique, mais voilà. Et on rappellera qu'ils ont déjà signé Jodel Dessous, hein, le joueur de Clermont, cette équipe de Sochaux qui se veut être ambitieuse, qui veut recruter sur ce mercato pour assurer une de ces deux premières places de cette Ligue 2. Et comme l'a dit coach, elles vont être très très chères, hein, entre Bordeaux, Le Havre et ceux qui suivent derrière, même Metz par exemple. Ça va être très compliqué de s'en sortir de cette Ligue 2, donc les Sochaliens veulent être ambitieux sur ce mercato. Allez, 8 minutes ici sur la pelouse de Bonal, 0-0 entre Sochaux et Valenciennes.
Tu disais Roland?
Non,
concernant Le Talec, il était où? Il était au Torpedo Moscou.
Ah d'accord.
Club des constructeurs automobiles de Moscou, bien sûr. Bastia Saint-Etienne, Julien Pernici. Alors j'allais te dire, mine de rien, Bastia, il peut faire un gros coup au classement un soir en cas de victoire. Hein.
Oui, c'est sûr. Bastia qui est déjà qu'à 5 points de Bordeaux, le deuxième peut faire une grosse opération. Et Bastia qui vient d'obtenir un corner avec une incursion de Miguel Alfarena. Les Bastia qui, depuis le début de la rencontre, effectivement, sont à l'offensive, très clairement. On sent qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train de se passer du côté de cette équipe de Régis Brouard. Depuis le début du match, les Stéphanois, on ne les a pas beaucoup vus, il faut bien le dire. Et là, le corner qui va être tiré par les Bastia en deux temps entre Sébastien Salamange et Kylian Caïbou, ça va donner un deuxième corner. Mais oui, il y a vraiment l'envie de faire un gros coup côté Bastia face aux Stéphanois. D'ailleurs, c'est un hommage ce soir, soirée hommage, 40 ans après le décès de Claude Pape. Tous les joueurs Bastia portent le nom de Claude Pape derrière le maillot. Et puis, il y a eu une conférence débat avec les anciens joueurs, dont le capitaine Marquet qui est dans les tribunes ce soir. Donc toujours 0-0 entre Bastia et Saint-Etienne au bout de 9 minutes de jeu. Les Bastiais poussent, mais pour l'instant, Saint-Etienne tient le coup.
Quel joueur c'était, Claude Papy? Légende du Sporting, hein, les joueurs le connaissent peut-être pas, mais c'est ça qui est quand même pas mal. À Bastia, ils savent préserver les traditions, entretenir la légende, l'histoire.
En plus, gars, sérieux, adorable. Donc, il sentait vraiment... tout ce qui se passe dans les 25.
Oh, il y a eu un. Oh, le but refusé pour Sochaux. Alors là, celui-là, je ne sais pas si on va revoir l'image, mais parce qu'il y a eu un ballon dévié, la reprise de volée de Doumbia, me semble-t-il, et il est signalé hors jeu alors que c'est lui qui au départ touche le premier ballon. L'arbitre signale un hors jeu de Sissoko qui au final ne touche pas ce ballon. On va peut-être pouvoir revoir l'image à un moment donné, mais c'est vrai que c'est ouais, effectivement le ballon. Et dévié la tête par Tony Mauricio, il est vaguement au duel Sissoko. Alors est-ce qu'on considère qu'il va gêner la défense? Mais c'est pas du tout lui qui reprend ce ballon, cette frappe qui était super dans la lucarne. Et l'arbitre qui finalement suit son assistant et signale le hors-jeu. Drôle de situation en tout cas. Il y a peut-être pas la. Enfin, il n'y a pas la VAR en Ligue 2 et donc ce but est refusé. 10 minutes ici, toujours 0-0.
La VAR est loin d'être parfaite, notamment son utilisation. Mais tous ces petits trucs là, comme tu es en train de nous expliquer, avec la VAR, ça a disparu.
0-0 pour l'instant donc entre Sochaux et Valenciennes. 10 minutes de jeu hein, partout dans ce multi-ligue de 21e journée. Pour l'instant, il n'y a pas de but. Il n'y en a pas non plus entre Grenoble et Quevilly-Rouen, Edouard G. Hein.
Oui, 11 minutes de jeu. On a un petit peu d'avance là. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de rythme. Et,
de toute façon, ça finira 0-0, tu le sais. Hein.
Ah bon, j'espère quand même commenter des buts pour me réchauffer ici, même s'il fait pas très 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 froid. Mais il faudrait un petit peu rafraîchir un peu l'atmosphère, et notamment du côté des supporters grenoblois, privés de victoire ici depuis le 22 octobre. Ça fait loin. Alors certes, il y a eu la finale, il y a eu la Coupe du Monde, ça fait un énorme arrêt, mais les grenoblois restent sur 3 matchs sans but ici et sans victoire, même 2 défaites et un nul. Ils ont du mal à faire le jeu. Ça se voit encore dans cette entame de match, même si on essaye là de trouver Jordan Tell devant, mais c'est Nicolas Lemaître qui va se saisir du ballon sur un ballon de Loïc Nestor mal assuré, pas assez précis pour l'attaquant grenoblois. Bientôt 12 minutes de jeu, pas de but, 0-0.
Est-ce que c'est plus animé en Bretagne entre Guingamp et Nîmes, Xavier Grimaud?
Il y a un petit peu de rythme quand même, mais pas de but, 0-0, une situation de chaque côté avec une frappe de Loïc Mbesso, le défenseur central qui a signé ici au Mercato, formé au PSG, hein. Il était à notre Nottingham Forest, ça a été contré sur sa ligne par les défenseurs, ou quasiment sur sa ligne par les défenseurs de Nîmes, et la réponse nîmoise avec Rafiki Saïd, le joueur qui a formé pas très loin d'ici à Brest, qui a vu sa frappe déviée de peu en corner. Donc il y a plutôt de l'intensité, c'est assez équilibré avec l'ajustement, peut-être les Nîmois qui vont partir à l'attaque avec bien joué au milieu de terrain, là ça percute bien, on va pouvoir jouer peut-être avec Pablo Pagis sur le côté gauche, avec plutôt Nicolas Benezet qui va aller chercher Rafiki Saïd dans la surface, le contrôle, il dit qu'il a contrôlé de la poitrine, visiblement l'arbitre a vu le bras, donc donc ce sera un coup franc en faveur de Guingamp. 12 minutes de jeu à Roudourou, 0-0.
Et le poteau qui sauve les Grenoblois sur un tir du numéro 9 Louis Mafouta de QRM. Il a profité d'une faute de Loïc Nestor qui a mal assuré sa relance et derrière il a ajusté des 18 mètres. Certes, Brice Maubleu était sur la trajectoire, mais il avait un petit peu de retard et c'est son poteau qui est venu sauver donc les Grenoblois. La première grosse occasion, elle est pour QRM et on en reste à 0-0.
Allez, le temps, le score, messieurs, Bordeaux-Le Havre, Nico Paul Orsi.
Bientôt 12 minutes de jeu, 0-0 entre Le Havre, le leader, et Bordeaux, deuxième du classement.
Sochaux-Valenciennes, Sébastien Ruffet.
La 13e minute et toujours 0-0.
Bastia-Saint-Etienne, Julien Pernici.
La 13e, toujours 0-0.
Grenoble-Quevilly-Rouen, Edouard G.
Et bien toujours 0-0 au bout de 13 minutes de jeu.
Guingamp-Nîmes, c'est avec Xavier Grimaud.
13 minutes, 0-0.
Paris FC Pau, Clément Brossard.
13 minutes de domination parisienne, mais toujours pas de but, 0-0.
Et les 4 autres matchs avec Benoît Boutron.
Pas de but pour l'instant, Metz-Rodez, Niort-Amiens, Annecy-Caen et Laval-Dijon, 0-0 partout.
On se régale les gars ce soir sur RMC, le Multi-League 2 qui se poursuit dans quelques instants avec Roland Courbis. Mais c'est pas grave, on est entre nous, on s'aime, c'est beau. Et nous on revient juste après ça.